Bonjour Joël, hein, tu es Joël Dédié et tu t'occupes de l'association Adolescence sans frontières.
Oui, c'est cela.
À Nîmes.
C'est cela. Adolescence sans frontières, c'est une association qui s'est créée il y a environ un an.
Ouais.
À l'initiative de militants qui se sont retrouvés dans des combats pour la défense souvent des immigrants, notamment des militants de RESF ou de la FASTI, mais d'autres aussi hein, qui viennent de tous horizons et qui avaient eu connaissance de dizaines de jeunes mineurs non accompagnés, puisque c'est le nom que l'administration leur donne aujourd'hui, qui se trouvaient hébergés à l'hôtel par les services de l'aide sociale à l'enfance du Gard et qui étaient totalement désœuvrés, livrés à eux-mêmes, sans accompagnement ou avec un accompagnement minimum. Donc, cette association s'étant créée a proposé au service de l'aide sociale à l'enfance de d'entrer dans un parrainage. Cela s'est donc fait avec dans une entente avec les services de l'ASE. Et ça s'est développé petit à petit depuis cette année.
Ouais.
Et nous sommes partis dans le projet d'apporter un soutien affectif, moral, culturel à ces jeunes, sans vouloir a priori faire le travail des travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance. Il se trouve que on a vite constaté que ce service n'avait pas les moyens. Il y a 3 travailleurs sociaux pour plus de 100 ou 150 exactement, je ne sais pas, mineurs à suivre, que le service n'avait pas les moyens de les suivre individuellement ou ne le faisait pas. Et donc, on a été amené petit à petit à s'occuper de l'inscription en CFA, de l'inscription au collège, de l'inscription au lycée, de la santé, de divers domaines qui, a priori, n'étaient pas ceux du parrainage.
Ouais.
Donc, à étendre notre action. Et donc, on a constaté qu'il y avait beaucoup de situations qui étaient assez dramatiques, particulièrement celles de jeunes qui arrivent qui sont dans l'année de leurs 18 ans, qui ne sont pas scolarisés, qui n'ont pas accès à l'apprentissage parce que ils n'ont pas encore été reçus par le juge des enfants pour obtenir un jugement d'assistance éducative, que donc ils n'ont pas une situation stabilisée, que dans ces situations-là, la préfecture ne délivre pas d'autorisation de travail absolument nécessaire pour s'inscrire dans un CFA et chez un patron pour faire un apprentissage, à toutes sortes de situations qui bloquaient ces jeunes dans leur évolution. Il faut dire aussi que ces mesures de protection délivrées par le juge des enfants, puisque la première mesure de protection, et ça, le Gard le fait généralement,
ouais,
à notre connaissance, c'est-à-dire que sur ordonnance de protection provisoire du procureur, enfin du substitut des mineurs,
ouais,
les mineurs sont effectivement hébergés de fait à l'hôtel ou en général à l'hôtel dans un premier temps, et ensuite vient la convocation chez le juge des enfants. Cette convocation, on peut l'attendre des semaines et des mois.
Ouais.
Parce que certainement, aujourd'hui, la police de l'air et des frontières multiplie les contrôles, les contrôles documentaires, les tests d'âge osseux qui sont de plus en plus souvent demandés et toutes sortes de contrôles qui retardent la transmission d'un dossier à l'aide sociale à l'enfance attestant de la minorité et de l'isolement, puisque c'est ça la règle. Il faut attester de la minorité et de l'isolement pour justifier d'être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance sur ordonnance du juge des enfants. Donc il y a des gamins qui restent dans une situation grise, comme ça, sans savoir ce qui les attend. Et ça, là, c'est d'abord, je crois, le fait d'une accélération, pas d'une accélération, mais d'une augmentation des contrôles de tous ordres qui correspondent certainement aux consignes que reçoivent les services de l'État et notamment la, la police de l'air et des frontières aujourd'hui.
Ouais.
C'est une situation qui n'apparaissait pas aussi aiguë il y a quelques mois.
Mmh.
Ces jeunes ont besoin d'accompagnement, ont besoin de trouver des formations, de trouver des emplois, et pour cela, il faut que leur situation soit administrativement réglée. Faute de ça, pas d'autorisation de travail, pas de possibilité de s'inscrire, et donc le risque d'arriver à l'âge de 18 ans sans aucune insertion, de se voir refuser le droit au séjour à ses 18 ans, puisque il est bien évident que dans les circonstances actuelles et au regard de la législation actuelle, ce qui permet à un jeune au-delà de ses 18 ans de se maintenir en France, c'est bien évidemment ses capacités à montrer au préfet qui va délivrer l'autorisation de séjour qu'il peut s'insérer. Et pour ça, il faut commencer tôt. Cette situation, c'est principalement ça qui nous a alerté, et c'est notamment la situation dans laquelle s'est trouvé le jeune Cantra au moment où, à ses 18 ans, il n'a plus été pris en charge par l'aide sociale d'enfance, puisque la protection du juge des enfants, c'est Cantra. Son ex-marraine en parlera mieux que moi, puisque elle l'a bien connu et l'a beaucoup accompagné. Juste ajouter que on se trouve dans une situation paradoxale où on est en face de jeunes qui ne demandent qu'à travailler une fois qu'ils sont sur le territoire français, qu'à faire un apprentissage d'un métier, qui n'y arrivent pas pour des tas de blocages administratifs, alors même que le gouvernement aujourd'hui nous dit et nous redit, encore il y a quelques jours, la ministre du Travail l'a rappelé, qu'elle voulait développer l'apprentissage, qu'il y avait très peu de jeunes qui apprenaient un métier en apprentissage qui restaient au chômage. Et ces jeunes, ils veulent travailler, ils sont capables, chaque fois qu'ils entament un apprentissage ou qu'ils font des stages chez des employeurs, chaque fois on veut les garder ou les reprendre. Et de fait, ils se trouvent dans une situation d'impossibilité de poursuivre ce projet. C'est un paradoxe qui est dramatique pour les jeunes et qui n'a aucun intérêt pour la situation de l'emploi en France. C'est absurde.
Et donc, on va retrouver tout de suite Solène Bourgoin, qui est sa marraine.
Elle sera au rassemblement que nous organisons ce soir à 6h30, avec le soutien de nombreuses associations, syndicats et partis politiques, ce soir donc à 18h30 à Nîmes devant la préfecture.
Eh bien, merci beaucoup Joël, et puis à très bientôt, j'espère.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous écouter en streaming à Nîmes ou n'importe où ailleurs. Donc on écoutait Joël Dédié, hein, de l'association Ados sans frontières de Nîmes, enregistré ce matin par téléphone. Et on va rester à Nîmes et on va retrouver Solène Bourgoin, la marraine de Cantra, toujours enregistrée ce matin par téléphone depuis Nîmes. Bonjour Solène, donc tu es Solène Bourgoin et tu es la marraine de Cantra qui s'est malheureusement donné la mort au moment de Noël.
Voilà, tout à fait. Donc j'étais la marraine de Cantra depuis à peu près, enfin mars-avril, là, depuis le printemps. Donc j'étais sa marraine via l'association Ados sans frontières.
Ouais. Voilà.
Donc je l'ai accompagnée, enfin quand je dis je, c'est mon mari et moi, et puis avec nos trois enfants, on a partagé tout un ensemble de moments avec Cantra, donc des moments de convivialité à la maison. On est parti en vacances avec lui cet été. Dès qu'on avait des activités, on lui proposait. Et puis il y avait aussi quelques activités un peu plus sérieuses dans l'accompagnement, un petit peu de tout ce qui est plus scolaire, on va dire, dans ses démarches. Il était arrivé en France. Alors, je crois que c'est février 2016.
Ouais.
Il est rentré dans le dispositif de l'ASE qu'un an plus tard, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une suspicion de fausse minorité.
Ouais.
Donc, et puis une suspicion autour de ses papiers. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de délais par rapport à toutes ces démarches. Donc, c'est vrai que moi, quand je l'ai rencontré, il lui manquait des papiers, il lui fallait un extrait d'acte de naissance. Donc, on a dû commencer par la recherche de ces documents. Donc, c'est comme ça qu'on a d'abord retrouvé sa maman au Mali,
Ouais.
Dont il avait perdu contact depuis 2 ans. Hein. Donc voilà, sa maman qui croyait qu'il était décédé en Méditerranée. Donc ça a été beaucoup d'émotions à ce moment-là. Donc là, il a retrouvé, enfin il a pu récupérer son extrait d'acte de naissance. Et puis une fois que tous ses papiers ont pu être récupérés, donc il est passé devant le juge le 8 août 2017. Donc finalement, il y a eu beaucoup de temps entre le moment où il est arrivé en France et le moment où il est vraiment rentré dans le dispositif à partir duquel il pouvait engager une formation.
Ouais.
C'est-à-dire que lui, depuis le départ, enfin en tout cas à partir du moment où je l'ai, enfin dès que je l'ai rencontré, il émettait toujours cette demande forte d'aller à l'école, d'apprendre. Mais tant que les démarches n'étaient pas, n'avançaient pas, tout était un peu bloqué pour lui. Et donc ce qui s'est passé, c'est vrai que quand il est rentré dans le dispositif, qui lui permettait d'accéder à un contrat d'apprentissage, etc., bah, il avait déjà largement 17 ans et demi, quoi.
Trop tard pour la régularisation de droit s'il avait été
Alors,
pris en charge au moment où il aurait dû être pris en charge.
déjà il y a ça, et puis le trop tard que vous évoquez, justement, nous on n'avait pas été informés de ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que en octobre, il a fait toutes les démarches pour intégrer un CAP. Donc on l'avait aidé à monter le dossier. Il avait été admis en CAP cuisine à condition de trouver un patron. Et donc, courant octobre, il a fait. Donc, il a trouvé un stage dans un restaurant de cuisine sud-africaine. Il a fait un stage pendant 2 semaines, qui s'est très bien passé. Et donc, à l'issue de ces 2 semaines, il lui a été proposé un contrat d'apprentissage de 2 ans. Donc, contrat, bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était enfin l'espoir. Il était. Enfin, voilà, il était vraiment heureux, quoi. Les choses se décantaient enfin. Et sauf qu'à quelques jours de ses 18 ans, Contra m'appelle en me disant que l'assistante sociale de l'ASE, enfin les responsables de l'ASE, refusaient de signer le contrat,
Ouais.
puisqu'il ne justifiait pas de 6 mois de scolarisation ou de professionnalisation, et que donc ça allait compromettre tout titre de séjour. Et c'est là en fait qu'on n'a pas compris, parce que si on avait été informé de ça bien avant, enfin au moment où c'était le plus opportun, on aurait accompagné Kantra complètement différemment. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme on n'était pas informé de ça, et apparemment lui non plus, nous on a bataillé avec lui pour toutes ces démarches, le CAP, trouver un patron. Donc je me souviens qu'on préparait même, on faisait des jeux de rôle à la maison pour préparer les entretiens avec les patrons. Enfin voilà, on a été complètement là-dedans avec lui. Voilà, qu'on l'avait vraiment aidé dans toutes ces démarches, et de manière assez concrète, et vraiment. Voilà, les choses se mettaient en place, allaient aboutir, et on n'a vraiment pas compris quand, alors qu'il avait trouvé ce contrat d'apprentissage, tout allait pour le mieux, enfin, quoi. Et là, ben non, on signe pas parce qu'il n'y a pas ces 6 mois, donc on a vraiment pas compris. Et voilà, là, on se dit encore aujourd'hui que si on avait été informé de ça, on l'aurait complètement accompagné différemment. Peut-être, à un moment, c'est avant d'être dans ces démarches pour trouver un contrat, etc., on s'était interrogé sur l'idée d'un accompagnement un peu psychologique, sur l'idée de retourner au Mali, ou en tout cas, on aurait peut-être parlé de, enfin, on aurait parlé des choses autrement. Et donc, pour Kantra, là, ça a été vraiment la perte de tout espoir. Il était complètement désespéré. Donc, voilà, il lui a annoncé que le contrat, c'était pas possible, et puis que de toute façon, à 18 ans, il devait quitter le foyer. Et alors, nous, on était complètement démunis, hein. Moi, j'ai à ce moment-là, frapper à toutes les portes, quoi, au niveau des associations, la CIMADE, Solidarité Migrants Alès, qui là me disait, Welcome Refugees, on me disait, oui, alors ok, il y a un hébergement possible s'il est demandeur d'asile, ce qui n'était pas le cas. Enfin, j'avais l'impression que, voilà, plus je me mobilisais, plus j'étais confrontée finalement à des obstacles. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour de ses 18 ans, en fait, mon mari l'a emmené à Paris avec lui, à Paris où il allait voir sa sœur. Et puis, Contra avait des papiers à rectifier au consulat. Donc, mon mari a dit à Contra, bah, écoute, viens avec moi à Paris, un peu foutu pour foutu, au moins pour tes 18 ans, je vais t'amener à la Tour Eiffel, on va changer les idées. Et puis, dans le train pour aller à Paris, qui était un train Ouigo qui donc va à Roissy, s'arrête à Roissy, c'est là que Contra a une espèce de décompensation psychiatrique avec des éléments voilà de panique. Il a cru que mon mari voulait l'amener à l'aéroport pour le renvoyer au Mali. Après, il pensait qu'il y avait des gens qui le recherchaient. Enfin, il a commencé à croire que son portable était sur écoute. Enfin, il y a une espèce de décompensation à ce moment-là. Et donc, il voulait s'enfuir. Et puis, finalement, donc, il est rentré à Nîmes. Là, il était vraiment dans un état de choc. Et un médecin l'a vu, a suggéré une hospitalisation psychiatrique que Contra a refusé. Et puis, donc, il a été mis à la rue du foyer et les travailleurs sociaux l'ont invité à appeler le 115. Et puis, voilà, c'est tout. Et moi, je lui ai dit, écoute, je sais que c'est pas une solution, mais en tout cas, sache que si t'es à la rue ce soir, tu sonnes à la maison. Et c'est les dernières nouvelles que j'ai eues de lui. Après, il n'a plus répondu à mes appels. J'ai essayé de le contacter par plusieurs moyens. Il n'a jamais donné suite. Et il était dans une espèce de peur panique. Et voilà, après, on a été informé du décès, mais c'est vrai que pendant le mois qu'a suivi la mise à la porte du foyer, on n'a pas du tout réussi à avoir de nouvelles, quoi. Donc il y a une espèce de choc là qui est survenu chez Contra suite à cette espèce de la fin de l'espoir et des illusions avec tout son parcours, les traumatismes qu'il avait probablement vécu, hein, dans son trajet. Nous ont raconté un petit peu, mais je pense qu'on sait pas, on savait pas un dixième des choses. Donc voilà, ce qui nous met le plus en colère, c'est pourquoi on n'a pas été informé de ces 6 mois qui nous auraient permis de l'accompagner complètement différemment. Et puis voilà, cette incompréhension, quoi, sur la façon dont ça s'est passé.
Voilà, c'est terrible. Et puis ça rappelle, ça j'en parlais tout à l'heure avec Joël Dédier, hein, le triste anniversaire aussi du décès de Denko Sissoko à Châlons en Champagne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Solène. Et puis, bah,
Merci.
je te transmets toutes nos condoléances, hein, parce que bah, une famille d'accueil, après tout, comme on dit en Afrique de l'Ouest, hein, tu étais son Ndiatigui. Et une famille d'accueil, eh bien, c'est la famille. Donc,
Oui, c'est vrai qu'on est, c'est très difficile, surtout pour nous et puis pour mes enfants qui avaient un lien qui était particulièrement fort avec lui. Voilà, donc ce qu'on souhaite, nous, c'est que cette tragédie permette aussi d'éviter que ce type de situation ne se reproduise et que les jeunes soient un peu plus alertés, en tout cas sur toutes ces procédures et voilà, qu'on puisse les accompagner au mieux.
merci beaucoup Solène, et puis donc je te présente toutes mes condoléances, et puis si tu es en contact avec sa maman au Mali, tu lui présenteras nos condoléances aussi.
Oui, tout à fait, c'est prévu. J'ai prévu de l'appeler. Merci beaucoup.
Eh bien merci beaucoup, au revoir, et puis
Au
à très
revoir.
bientôt.
À bientôt. Au revoir.